Notes de comptoir. La vie du territoire au travers des cafés-concerts, bars associatifs, guinguettes et micro-lieux. Un magazine proposé par la CORLAB, la coordination des radios locales et associatives de Bretagne, en partenariat avec SuperMab, le réseau des scènes et musiques actuelles, le collectif Culture Barbare et Radio Boa.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série consacrée aux micro-lieux de diffusion des musiques actuelles en Bretagne, notes de comptoir. Dans ce nouvel épisode, cap sur le nord des Côtes d'Armor, à Trédrez, Loquémo, près de Lannion et du bord de mer. On y retrouve Julien Geffroy, gérant du café Théodore, un lieu de vie sociale, culturelle, ouvert sur le monde, qui accueille associations et collectifs du territoire. Comment se déroule la programmation musicale au café Théodore, qui en est responsable et comment est-elle financée? Élément de réponse dans ce reportage. Et puis nous retrouverons également en seconde partie Léa Sanzo-Dabin du JIP Café Culture, un groupement d'intérêt public qui soutient financièrement l'embauche d'artistes du spectacle vivant. Avec elle, nous comprendrons son fonctionnement et saurons qui peut en bénéficier. Mais avant cela, direction le café Théodore, où l'on entend Julien Geffroy, les artistes du jour Jacques Titlet et Pauline Villerval, sans oublier une habituée bénévole du café. Un reportage réalisé par Maël Ozias de votre radio locale, Radio Craze Braze, basée à Rostrenin et Guingamp.
Salut, moi c'est Jacques Titlet.
Moi c'est Pauline Villerval. C'est pas la première fois que vous venez au café Théodore?
Non.
Oh que non. Moi j'aime à peu près tout ici. On mange bien, il y a un super jardin avec des beaux arbres, avec des bonnes crêpes. Les gens sont sympas, la programmation est super, voilà. Franchement.
Alors, c'est pas un lieu comme les autres, quand même. C'est vrai. Il est un peu au-dessus de la mêlée. Quoi. Il y a quelque chose de... Il est complet, puis là, il dure. Quoi. Il dure depuis longtemps. Voilà, c'est une institution, un peu, quoi, on peut dire.
Julien Geffroy, je suis le gérant du café Théodore à Trédrez Loquémo. J'ai repris le café en avril 2022. Voilà. L'histoire du café, elle a commencé en 2001. À cette époque-là, donc création. Avant, c'était un corps de ferme, donc ils ont créé un café culturel qui s'appelait un peu plus loin. Donc, ils étaient plusieurs associés de 2001 à 2006. Et ensuite, suite à des problèmes de lien entre les personnes, voilà, c'est Denis Coursol qui a repris la gérance en 2007. Et avec le changement de nom, donc ça s'appelle toujours le Café Théodore, donc depuis 2007. Et Denis en a été le gérant jusqu'à mon arrivée, donc en 2022. Il y avait déjà une programmation musicale qui n'était pas énorme, mais il y avait quelques propositions donc entre 2001 et 2006. Après, quand Denis est arrivé, donc il y a eu rapidement une volonté de proposer plus d'événements. Et ça a été possible notamment grâce à la création de l'association Tohu Bohu, donc des gens qui fréquentaient le café et qui se sont mis en association pour proposer aussi une offre culturelle en lien avec le café. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à avoir un peu plus de concerts, un peu plus de spectacles et également des projections qui font partie de l'âme du lieu. Donc il y a énormément de projections de documentaires depuis ce temps-là. On va dire qu'il y a toujours une part de musique du monde, même si j'aime pas trop ce terme, mais parce qu'il est très très large. Et mais non, ça peut être du jazz, du blues, du punk. Voilà, c'est très 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 varié. On a aussi une scène slam régulièrement. Il y a aussi un bal folk une fois par mois. Donc c'est vraiment très 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 large et ça, bah, ça touche des publics très différents. Voilà, ça mixe bien. On va dire qu'il y a des habitués qu'on va croiser sur différents styles musicaux. Après, sur des propositions plus spécifiques, il y a des gens qui vont faire plus de kilomètres et qui vont venir jusqu'ici pour un concert. Ouais. Nombre de spectateurs, je ne sais pas. On est toujours à 50-60 en moyenne sur l'année. Après, avec des événements où c'est plus difficile, il y aura peut-être des fois 10 personnes, mais des fois, il y a plus de 100 personnes. Donc... globalement, ça équilibre sur l'année, quoi.
Tu pourrais presque dire qu'il ne me manque que la parole.
Moi, je trouve que c'est important, le jeu dans les bars, parce que c'est ce qui fait qu'il y a de la musique populaire qui continue à exister. Et puis, des fois, c'est pas spécialement de façon professionnelle dans les bars, ça peut être des amateurs et tout ça. Donc, c'est un bon endroit pour commencer. Voilà. Mais peut-être que c'est pas un but en soi pour les professionnels. Je sais qu'il y en a qui aiment plus. Ouais, des fois, on me dit ça, ouais, j'en ai marre de jouer dans les bars. Parce que, bon, les gens qui ont beaucoup joué dans les bars, ça se compense quand même. C'est assez. Prenant comme métier, quoi. Quand t'amènes ta propre stono, machin, c'est pas du tout pareil. Mais moi, je trouve que c'est très important.
Moi, j'aime bien aussi. Il y a des bars dans lesquels j'aimerais pas tout jouer. Enfin, j'aimerais pas jouer, par exemple, ce qu'on va jouer ce soir qui demande un minimum d'écoute. Mais ici, j'ai confiance dans le fait que ça va écouter. Mais il y a d'autres bars dans lesquels on se pointerait jamais avec ce répertoire de Brigitte Fontaine en acoustique. Ce serait se tirer une balle dans le pied. Mais avec d'autres musiques, oui, c'est super important d'avoir de la musique dans les bars et effectivement d'avoir un truc un peu polyvalent aussi où n'importe qui peut sortir son instrument, où c'est un contexte un peu moins solennel que d'autres contextes.
On le fait aussi parce qu'il faut manger.
Ah, donc, si on jouait, ça vous permet de...
si on jouait pas du tout dans les bars, on n'aurait peut-être pas assez de travail, je pense. Je sais pas. Ça dépend des répertoires et des gens, mais moi je sais que cette année j'ai joué dans beaucoup de bars, des restaurants, dans les campings aussi. J'adore les campings.
En fait, il y a quand même peu de bars qui offrent les conditions qu'offre le Café Théodore aussi, il faut le dire.
Voilà,
donc
ça,
nous, enfin oui. Moi personnellement, bah, les conditions c'est qu'on est déclaré en fait de base, et il y a quand même beaucoup de bars qui s'engagent à rien. Donc ceux-là, on n'y va pas trop, quoi. Ou en tout cas, on ne va pas s'engager à être là à telle date et à jouer tel répertoire si eux, de leur côté, ils ne s'engagent à rien. Mais je pense qu'on aime tous les deux les bars. On a tous les deux monté des bars récemment, là. Donc on a chacun notre bar,
ouais, et voilà.
dans lesquels il y a de la musique, ouais. Aussi.
Artiste et barman, au final, ça se rejoint un peu, non ?
Bah, il y a de ça, hein, quelque part. Là où il y a de l'événementiel, il y a souvent un bar, hein, c'est clair. C'est le côté sociétal du bar et du concert, ça va de pair, hein, c'est sûr. Ouais.
Alors, en ce qui concerne les rémunérations des artistes, donc, les artistes sont évidemment rémunérés, soit via le GUSO ou via des contrats de cession quand il y a des tourneurs. Donc l'association Toibo est subventionnée par la mairie de Locquémo, par le conseil départemental, par la communauté d'agglo aussi, depuis 2 ans maintenant. Donc ce qui permet de financer c'est les cachets des artistes, en fait. Parce que souvent, bah, on pratique un prix d'entrée, en fait, pour chaque concert. Et bah, souvent, c'est quand même déficitaire. Donc les subventions permettent aussi que cette programmation soit toujours là et assez dense. Je programme aussi directement avec le café. Je bénéficie du Jeep Café Concert. Donc j'ai fait une demande de licence de spectacle. Et donc sur certaines dates, c'est le café qui prend en charge la rémunération des artistes et il y a une aide spécifique là-dessus. Donc c'est très chronophage, mais bon, après moi, c'est ma passion. Donc voilà, tant que j'aime faire ça, je le ferai. Ce qui est difficile aussi, c'est, je pense à l'association Tohubu, c'est de garder une motivation, trouver des bénévoles qui mettent leur énergie dans le lieu. Enfin, depuis le Covid, c'est quand même assez difficile. Il y a eu un changement de fonctionnement chez les gens, je pense, et leur implication associative, elle est moins forte qu'avant. Donc ça, on le constate, voilà, ça rame un peu pour trouver des gens, pour faire les entrées, pour faire à manger pour les musiciens. C'est souvent les mêmes personnes, donc voilà, ce qui serait bien, c'est que ça se renouvelle plus que ça, quoi. Les difficultés, ça va être, je pense, dans l'avenir des questions de subventions. Donc on sait déjà que celles du département ont baissé cette année, pas forcément pour les petits lieux, les lieux en milieu rural, mais c'est la crainte pour les années à venir, ouais, c'est sûr.
Allez, hop. Un petit verre d'eau. J'ai pas de ticket de tabac, je ne plus.
La première fois que je suis venue, c'était en 2005, je crois. Voilà, quand c'était le café un peu plus loin. On a une programmation musicale qui est quand même assez hors pair. On a vraiment de la chance d'avoir ce lieu. En fait, avec les gens viennent avec leurs enfants, ça court partout. Le jardin est clos, donc c'est relativement sécurisé, on va dire. Et puis, voilà, il y a moyen de manger l'été. Il y a du bon vin nature. Il y a des bonnes bières locales. Ça mélange un peu toutes les générations. Et puis, finalement, la bande de copains que j'avais un peu laissée sur Lagnon, on s'est refait des copains. Enfin, moi, je me suis refait plein de copains ici. Et puis, je continue de faire des belles rencontres, quoi. C'est chouette. Il y a tout juste un an, on a accueilli, ils venaient pour la deuxième fois, un groupe d'afrobeat japonais. Ils étaient 11 sur scène, ou 9 ou 11. Enfin, bon, c'était... Ils fabriquent leurs instruments eux-mêmes et puis ils ont une énergie de dingue. Et en fait, il y avait tellement de monde qu'on a... Enfin, il y a une partie des gens qui sont restés dehors pour écouter le concert. Et ils ont joué, je sais pas, pendant 2h30, un truc comme ça. C'était fou, quoi. Et voilà, et après, il y a aussi ce qu'on a de la chance, c'est que les musiciens, ils restent souvent un peu sur place, traînés. Et ça permet de les rencontrer. Il y en a quelquefois qui sont là le lendemain au café, donc on a partagé une grosse bouffe le lendemain midi et c'était super, et ils nous ont fait ils étaient hyper curieux de goûter des trucs, goûter les crêpes, goûter du vin, du cidre, tout un tas de choses, et dans un anglais approximatif tous, on a passé un super moment, voilà.
J'aime mieux
Voilà à l'instant un reportage réalisé au Café Théodore à Trédrez-Locquémo dans les Côtes d'Armor par Maëlle Ozias de votre radio locale, Radio Kreisbreis, basée à Rostrenin et Guingamp. Dans ce reportage, on comprend comment le Café Théodore fonctionne et établit sa programmation. C'est l'association Tohubohu qui s'en charge grâce aux subventions du département, de la communauté de communes, de la mairie ou encore grâce au Jeep Café Culture. On en a entendu quelques mots dans le reportage et on va donc essayer d'en savoir plus et de comprendre comment ça fonctionne. Et tout ça, c'est en compagnie de Léa Sanzo-Dabin, co-directrice du Jeep Café Culture. Bonjour Léa.
Bonjour.
Pour commencer, comment réagissez-vous au reportage ?
C'est une belle illustration du type d'établissement qu'on est. C'est vraiment l'illustration parfaite de ce pourquoi on existe. Donc voilà, on a beaucoup d'échanges avec les artistes et les structures qu'on finance quotidiennement. Donc voilà, c'est un discours qu'on a l'habitude d'entendre et on sait à quel point ces lieux jouent un rôle fondamental sur le territoire sur lequel ils sont implantés, mais voilà, c'est toujours très agréable à constater. Donc voilà, c'était très intéressant de voir que ce lieu, qui pourrait être un simple débit de boisson, apporte finalement au territoire. On le voit, on le constate plusieurs fois dans le reportage. Donc ça, c'est voilà, c'est super de voir que c'est vraiment notre cœur de cible et que c'est ce pour quoi on existe, pour aider des lieux comme ceux-là.
Alors Léa, le JIP Café Culture, c'est un dispositif qui existe depuis 2015. Ce sont deux fonds d'aide destinés à favoriser l'emploi artistique dans les cafés, hôtels, restaurants et de manière plus ponctuelle pour des structures comme des comités des fêtes ou autres. C'est bien ça ?
Oui, le JIP Café Culture, c'est vraiment avant tout un fonds d'aide dédié aux cafés, hôtels, restaurants. C'est vraiment son histoire. C'est un fonds d'aide qui a été effectivement créé en juin 2015, qui fêtera ses 10 ans du coup en juin 2025. Et puis récemment, en juillet 2023, on a créé un deuxième fonds en direction des autres employeurs occasionnels, notamment les comités des fêtes, les associations de parents d'élèves, les maraîchers, les libraires, la liste est infinie. Mais et du coup ce fonds est quand même bien plus récent dans l'histoire du JIP Café Culture.
Pourquoi il a été créé ce fonds, en tout cas le premier fonds, et puis on a compris qu'il y avait eu un deuxième qui est arrivé en 2023, mais pourquoi il a été créé ? Est-ce que vous êtes parti d'un constat ?
Oui, le constat de départ, il était partagé entre deux typologies d'acteurs très différentes. Il y avait un premier constat fait par les artistes, et notamment les syndicats qui représentaient ces artistes, et là, les trois branches de la CGT Spectacle qui partaient du constat que c'était très difficile pour les artistes d'être salariés, déclarés, payés correctement quand ils jouaient dans des cafés, hôtels, restaurants. Et le constat opposé, il était fait par les représentants des employeurs, donc des cafetiers, des hôteliers, des restaurateurs, et notamment par l'UMIH, le syndicat majoritaire, et qui était, c'est aussi très difficile de vous déclarer en bonne et due forme parce que ça coûte un bras, quoi. Donc, pour sortir de ce constat stérile, ces deux syndicats se sont mis autour de la table et ont agrégé d'autres acteurs, des fédérations de café culture, notamment comme le collectif Culture Barbare, des réseaux régionaux de musique actuelle, le Pôle, le RIM. Aussi, il y a eu très vite une oreille attentive de la région Pays de la Loire, de la ville de Nantes et du ministère de la Culture. Donc, toutes ces petites personnes se sont, ont vraiment essayé de réfléchir à trouver une solution. Ça a mis plusieurs années. Et finalement, est née l'idée de créer un fonds d'aide à l'emploi des artistes, qui a été expérimenté pendant 2 ou 3 ans, je crois, en Pays de la Loire, géré par un centre de ressources de musique actuelle, le Pôle. Et puis, le ministère de la Culture, après cette expérimentation, a dit « Banco, on y va et on l'étend à tout le territoire national en créant cette forme juridique qui est le groupement d'intérêt public ».
Alors, on comprend donc que c'est une aide donc nationale. Qui sont les adhérents du JIP Café Culture ? Comment il est abondé, ce fonds ?
Donc, le groupement d'intérêt public, c'est une... On est très attachés à cette forme juridique, nous, et on passe beaucoup de temps à l'expliquer parce qu'elle permet d'ancrer vraiment notre action et de comprendre d'où proviennent les financements. Donc, groupement d'intérêt public, c'est une forme juridique qui permet de percevoir des fonds publics et de les redistribuer. Et c'est une forme juridique qui permet de mêler des membres de droit public. Donc, on a des adhérents publics qui sont représentés chez nous par le ministère de la Culture et tous les niveaux de collectivité qui souhaitent adhérer. Donc, on a aussi bien des villes, des intercos, des départements comme des régions. Et puis, des membres de droit privé, donc des adhérents privés, qui là sont représentés par des représentants d'employeurs ou des représentants de salariés, par exemple. Et tout ce petit monde doit converger vers un intérêt commun qui est celui de la lutte contre le travail illégal. Donc ça, c'est le fonds est abondé par ces financements-là et le fonds d'aide est abondé uniquement par des fonds publics du ministère de la Culture et des collectivités territoriales.
On comprend donc que le café Théodore qui bénéficie du JIP Café Culture, si on prend par exemple le département du 22, ils sont adhérents.
Oui, quand on aide le café Théodore, on pioche dans différentes sources de financement, celui de son interco, l'Amiens Trésor, communauté, celui de son département, les Côtes d'Armor, celui de sa région et celui du ministère de la Culture.
Léa, est-ce que le fonds d'aide du JIP, il s'arrête seulement aux musiciens ou ça s'étend au spectacle vivant, à la danse, à autre forme d'art ?
Alors, en effet, ça s'étend à tout le champ du spectacle vivant. Musique, théâtre, danse, mime, magie, conte. On est très très catalogué musique et la musique est largement représentée, mais on peut vraiment nous solliciter pour d'autres formes, d'autres disciplines du spectacle vivant. Donc il faut vraiment pas hésiter à repenser les formes esthétiques. On a beaucoup de problèmes de nuisances sonores, en tout cas des lieux ont beaucoup de problèmes de nuisances sonores, donc s'ouvrir au conte par exemple ou à la magie ou à la danse, ça peut être une bonne idée de continuer à organiser des projets culturels dans son lieu sans avoir de problèmes de tapage nocturne. Donc voilà. Et puis encore plus avec la création du deuxième fond, je pense qu'on peut encore plus s'ouvrir à d'autres formes, à d'autres esthétiques, d'autres disciplines. Donc non, c'est pour tout le champ du spectacle vivant, c'est important de le rappeler.
Et l'aide, est-ce qu'elle est la même pour un lieu qui organise, je ne sais pas moi, 12 événements, allez, disons, à l'année, et un lieu qui en organise 80?
Oui, l'aide, elle est forfaitaire, elle est toujours la même. On a toujours une prise en charge de 39% et donc une aide à 210 € quand on déclare 3 artistes. La simple différence entre les établissements sans licence et avec licence d'entrepreneur de spectacle, c'est juste qu'on va appliquer la réglementation puisqu'on gère des fonds publics et donc on aidera 6 fois un établissement sans licence, alors qu'un établissement avec licence pourra être aidé, si les fonds le permettent, plus de 6 fois évidemment.
Alors quelles sont les limites du GIP Café Culture aujourd'hui, Léa ?
Les limites du GIP Café Culture, j'imagine qu'elles concernent notre capacité de financement. On a depuis 10 ans gagné en notoriété, donc on est de plus en plus connu, sollicité, et on a parfois des enveloppes qui ne sont pas suffisantes. Les limites du GIP Café Culture, c'est que parfois le GIP Café Culture est perçu comme un financement qui assurera la programmation du lieu, alors que ce n'est pas du tout le cas. On n'a pas les moyens d'assurer les programmations culturelles des différents lieux qui organisent du spectacle. Donc la limite, elle est là. Elle est autour de la perception de ce dispositif. On est la cerise sur le gâteau, quoi. On n'est pas là pour accompagner toutes les dates de tous les lieux en France parce qu'on n'a pas suffisamment de fonds. Et parce que ce n'est pas l'idée non plus, de toute façon. Il y a des limites de perception et de capacité de financement qu'on essaye de corriger en faisant beaucoup de pédagogie sur ce qu'on doit faire, comment on le fait, dans quel cadre, et aussi qu'on essaye de corriger pour aller chercher toujours plus de financeurs, et notamment toujours plus de niveaux de financement, donc de niveaux de collectivité qui permettraient d'abonder les fonds. Là, le Café Théodore est quand même un bon exemple de coopération entre l'État et les collectivités sur son territoire, toutes ou presque jouent le jeu de la décision et de la contribution. Donc le but du jeu, c'est d'essayer de pallier le manque de financement en ayant des arrêts de financement le moins long possible pour éviter que ça casse une dynamique vertueuse qui aurait pu s'initier, quoi.
Alors dans le reportage, on entend donc Pauline Villerval du groupe Orla qui indique que beaucoup de bars ne s'engagent à rien et puis indique aussi que le Café Théodore, ils sont rémunérés quand ils jouent au Café Théodore. Est-ce que vous avez un travail aussi de sensibilisation autour du GIP Café Culture et des bars ?
Un très très gros travail de sensibilisation qui nous dépasse parfois, parce qu'en fait, le GIP Café Culture cristallise différentes problématiques qui sont au-delà, en fait, de la problématique de l'emploi. C'est en bonne et due forme. Donc, quand ça nous dépasse, on s'appuie sur les différents partenaires qu'on a. Et on en a beaucoup, je l'ai dit, on a un gros fonds d'intérêt public, donc c'est assez intéressant. On fait œuvre de pédagogie, on fait énormément de réunions d'information sur les territoires pour présenter le dispositif. Rappelez que il est obligatoire de déclarer un artiste. L'artiste est peut-être passionné, mais il paye pas son loyer avec la passion. Il faut absolument tordre le cou en fait à pas mal d'années de pratiques, de chapeaux ou de. Il y a un gros, gros, gros travail pour rappeler que les artistes doivent être payés, déclarés et qu'ils assurent une prestation comme n'importe qui d'autre et donc à ce titre doivent avoir une rémunération. C'est un travail qui est immense, mais qu'on fait comme on peut. On est une toute petite équipe. On s'appuie sur nos financeurs, on s'appuie sur les partenaires. Je parlais de nos réseaux régionaux, je parlais de la Fédération Culture Barbare. Et puis il y a évidemment aussi le Buzo et France Travail qui nous accompagnent et qui organisent des temps d'information en direction des artistes, que eux soient un peu ambassadeurs du dispositif et des billes en fait dans leur démarchage de lieux pour convaincre les lieux de faire les choses. Avant je disais les choses bien, mais en fait c'est pas bien, c'est normalement quoi. Donc voilà.
Pour terminer, Léa, comment il fonctionne le Jeep en Bretagne? Voilà, est-ce qu'il y a beaucoup d'adhérents et est-ce qu'il y a beaucoup de bars qui en bénéficient?
Il fonctionne très bien en Bretagne. On a un très 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 beau travail, notamment avec la région Bretagne, qui voilà a porté hein, la création du deuxième fonds, notamment en essayant, au sortir du Covid, la région Bretagne a souhaité accompagner de la même manière qu'elle le faisait avec ses cafés par le biais du Jeep Café Culture, elle a souhaité pouvoir accompagner ces cercles celtiques, ces écoles de danse, ces associations de parents d'élèves, ces comités des fêtes pour voilà, quand ils organisent du spectacle. Mmh. Et donc, on a tenté une expérimentation pendant près de 2 ans d'un élargissement de l'aide du Jeep Café Culture vers ces employeurs-là. Et l'expérimentation a extrêmement bien marché. Et voilà, et les membres du Jeep Café Culture ont souhaité avoir cette aide-là aussi sur leur territoire. Et c'est ce qui a permis de créer un deuxième fonds et de l'étendre à tout le territoire national. On travaille extrêmement bien avec la région Bretagne. Elle avait un temps d'avance, je pense, sur les problématiques de salariat. Les bars, avant que le dispositif Jeep Café Culture existe, étaient déjà dans la volonté de faire les choses correctement. Donc le travail est moins difficile quand on arrive chez un café qui avait déjà la volonté de faire bien. Donc non, c'est un dispositif qui fonctionne bien sur le territoire. On a un beau maillage de collectivités territoriales en plus de celui de la région. On a 3 départements. Et on a aidé près de 600 lieux depuis le début de l'adhésion à la région Bretagne. Donc, il y a une utilisation très dynamique.
Léa Sans-Eau-d'Abin, si on souhaite aller un petit peu plus loin, en découvrir davantage peut-être sur le Jeep, est-ce que vous avez des éléments à proposer à nos auditeurs, auditrices, peut-être un site internet ou d'autres documentations?
Oui, on a le site du Jeep Café Culture qui normalement est bien fait, en tout cas, comporte toutes les informations nécessaires, notamment celles du barème de prise en charge. Le Jeep Café Culture peut être un objet un petit peu abscon, c'est extrêmement novateur dans le milieu de la culture d'être sur un fonds d'aide à l'emploi sans regard sur la programmation. C'est quelque chose qui peut être difficilement appréhendé. S'il y a bien quelque chose de clair, c'est notre prise en charge. Donc, en général, ça vaut le coup de se balader sur le site et de regarder le barème de prise en charge qui est forfaitaire, qui ne bouge pas et qui permet à l'artiste ou au café de calculer le reste à charge employeur après l'aide du Jeep. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le site internet. On a un petit tuto aussi qui est présent sur le site. Et sinon, il ne faut pas hésiter à nous appeler. J'ai dit qu'on était une petite équipe, mais on essaye d'être réactive. Il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter. On commence à être de plus en plus connus, je l'ai dit, mais on n'est évidemment pas au max de ce qu'on pourrait faire. Il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire pour lutter contre le travail illégal. Chaque relais est bon à prendre. On s'appuie vraiment, nous, sur tous nos partenaires, sur tous les têtes de réseau qui pourraient faire connaître ce dispositif. Il faut qu'il soit indispensable pour que des financeurs continuent à l'abonder malgré la crise budgétaire ambiante, l'austérité budgétaire. Donc, on a toutes et tous intérêt à communiquer sur l'existence de ce fonds. Il faut qu'on soit un outil indispensable, un outil de politique publique indispensable. On a un an pour l'être, pour être protégé. 2026 ou 2027, qui risque d'être bien plus compliqué.
Merci beaucoup Léa Sans-Eau-d'Abin. Je rappelle que vous êtes la co-directrice du Jeep Café Culture, dispositif d'aide à l'embauche d'artistes et techniciennes et techniciens du spectacle pour les cafés, hôtels et restaurants, ainsi qu'aux structures qui organisent ponctuellement des événements de spectacle vivant. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée.
Merci à vous, merci pour l'invitation, merci beaucoup.
C'est la fin de cet épisode, alors pourquoi pas se faire une petite virée dans l'un de ces lieux près de chez vous pour les soutenir et continuer de vibrer au son de ces artistes et groupes programmés. Si ce n'est pas possible là tout de suite, eh bien vous pouvez toujours réécouter cet épisode consacré au Café Théodore et continuer votre périple de découverte des micro-lieux de diffusion des musiques actuelles en Bretagne sur corlab.org. À bientôt pour un nouvel épisode.
C'était Notes de comptoir, un magazine produit par la Corlab et par Radio Boa, la radio régionale associative bretonne en DAB+, avec le soutien du Centre national de la musique.